CJSO 101.7 La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Les électeurs de Bécancour, Nicolas Sorel, seront appelés le 28 avril à choisir leur représentante ou leur représentant à la Chambre des communes. Quels sont les enjeux locaux de cette élection-là? La question de l'urne, est-ce qu'elle est ici différente d'ailleurs? L'actuel contexte géopolitique, est-ce qu'il modifie considérablement ou est-ce qu'il modifie peu la donne dans la circonscription? Ce sont les questions que je vais, dans un premier temps, soumettre ce midi aux collègues Alexandre Brouillard et Jean-Philippe Morin du journal Les Deux Rives. Et dans un second temps, à quatre passionnés de politique, François Beaune, Claude Carpentier, Patrick Gauthier et Sophie Pagé-Sabourin. On est de retour immédiatement après les publicités.
Ça change tout, prise 1.
L'événement Ça change tout de Ford bat son plein.
Solide!
Louer un F-150 STX 2025 avec ensemble décor noir d'une valeur de 60 800 $ à 478 $ par mois sur 24 mois avec 4 375 $ d'acompte à 0 %.
C'est 110 par semaine, ça?
Oui, et les propriétaires de Ford admissibles ont un boni de 750 $. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Les électeurs de Bécancour, Nicolas Sorel, Alnopac, sont appelés dans 28 jours, en comptant aujourd'hui, à choisir leur représentant ou représentante à la Chambre des communes. Il n'y a pas de femme en date de candidat, là, de candidate. Quels sont les enjeux locaux de cette élection? Est-ce que la question de l'urne ici, elle est différente d'ailleurs? Est-ce que l'actuel contexte géopolitique modifie considérablement ou peu la donne dans le comté? Je me tourne d'abord... du côté, et jusqu'à 12h30, du côté des collègues Alexandre Brouillard et Jean-Philippe Morin du journal Les Deux Rives. Bonjour, messieurs.
Salut, Sylvain.
Salut. Au regard des sondages nationaux, est-ce que ça risque pas, les amis, d'être une élection intéressante à suivre que celle-là, y compris dans le comté où la victoire de M. Plamondon est à chaque fois, sauf peut-être en 2011, apparue assurée? Ça pourrait être bien plus serré cette fois-ci, non?
Ouais.
Qu'en dites-vous,
ouais, absolument,
Jean-Philippe?
Absolument. Tu as dit le mot intéressante, je vais dire oui. Importante, pour paraphraser mon ami Denis Marion ce matin. Importante avec le contexte, tout ce qui se passe, le contexte politique aux États-Unis. Je pense que chaque enjeu dont on va parler est teinté par... le locataire de la Maison-Blanche. Teinté orange, c'est sûr que ça va avoir un impact sur nous ici au Nord. Donc, oui, c'est intéressante, oui, mais importante encore plus.
Alors, Alexandre, comment tu la vois, toi? La vois-tu importante, serrée, l'élection ici dans le comté?
Ben, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Là. Je crois que si on se fait au sondage, on pourrait peut-être avoir une élection plus serrée qu'anticipée dans les dernières années. M. Plamondon, ça fait déjà depuis 1984, là, si mes notes sont bonnes, qui siège à la Chambre des communes. On a déjà discuté, nous, au journal, là, avec les candidats. Puis certains ont déjà des volontés hein, de peut-être apporter du sang nouveau. Moi, je pense que ça va être une élection qui va être très, très intéressante à suivre.
Il y a des adversaires de Plamondon qui croient vraiment à leur victoire cette fois-ci, ce qui n'a pas souvent été le cas.
Exactement, exactement. Puis tu sais, c'est toi, avant d'entrer en onde, que tu me disais que le Bloc, selon Québec 125 ou Canada 338, était un comté...
Il n'y avait désormais plus qu'ici que Québec 125 Canada notait un comté solide pour le Bloc québécois. Il y a encore des comtés là où ils sont en avance. Les gens sont enclins à y voter Bloc. C'est plutôt favorable, mais solide. Ce site-là ne parle plus que d'ici.
Mais pourtant, avant l'élection soit déclenchée, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de solides par rapport au Bloc québécois. Oui. Donc, 28 jours, c'est long. c'est long en politique. Sûr. On dit que c'est une petite campagne, mais c'est long, 28 jours.
Absolument.
Donc, ça a le temps de changer énormément. Et on a des candidats, justement, qui s'affichent de plus en plus dans la dernière semaine. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant à suivre.
On vote ici beaucoup pour l'homme Plamondon, dont il est difficile d'imaginer qu'il n'en sera pas cette fois-ci à son dernier tour de piste politique. Cette hypothèse-là, qu'il en soit à son dernier tour de piste politique, est-ce qu'elle lui est favorable ou est-ce qu'elle lui est défavorable? Qu'en pensez-vous?
Moi, je ne sais pas si ça va avoir un impact personnellement. Tu l'as dit, tu sais, il est rendu à 81 ans, donc effectivement, on peut anticiper que c'est son dernier tour de piste. Moi, je le vois pas comme un facteur dans la décision derrière l'urne, là, savoir est-ce que je vais voter pour lui ou non en
fonction
de
ça. Ce n'est ni un handicap, ni un facteur favorable à sa réélection.
Non, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme le contexte actuel, quelle décision je peux prendre pour le mieux, pour mon député, pour qu'il va mieux me représenter à la Chambre des communes. L'âge, moi, je vois plus surtout la compétence et puis ce qu'il peut m'apporter. Donc, moi, je pense que ça va être ça, mais évidemment, ça peut jouer pour certaines personnes, mais selon moi, c'est ça.
Alexandre Brouillard.
Dans les dernières années, il a quand même démontré au quotidien qu'il faisait encore le boulot, là. Je crois humblement qu'on le voit encore beaucoup dans la région, on entend des bons commentaires. Après, est-ce que les électeurs vont voter en fonction nécessairement du comté et non pas peut-être le premier ministre? On entendait des fois des gens qui sont peut-être moins conservateurs, que ce soit moins libéral. Est-ce qu'ils vont vouloir voter peut-être en fonction plus haut du premier ministre?
Bien, on l'entend, c'est ça, effectivement. Moi, j'ai toujours voté pour telle personne, mais là, moi, je veux pas que telle personne passe. Donc, je vais voter. Exemple, je veux pas que M. Poilievre passe, je vais voter Carney. Je vais voter libéral cette fois. Je veux pas que M. Carney passe, je vais voter... Fait que souvent, ça peut être ça.
Il peut avoir
le vote stratégique au premier ministre.
Plus qu'idéologique.
Ça peut arriver dans le comté, mais comme tu as dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui c'est, souvent, ça peut arriver que c'est Louis Plamondon qui est le député en place, qui va chercher des votes lui-même versus un autre candidat du Bloc qui peut aller chercher quelques votes, mais c'est surtout la personne en place qui fait la différence ici.
Les candidatures ont, outre celle de M. Plamondon, tardé à être annoncées. Celle du NPD est même pas encore connue. Ça vous dit quoi? Ça dit quoi sur le degré de préparation des partis en vue d'élections pourtant très prévisibles? Il n'y a pas un parti qui peut dire « Oh, ben on ne l'a pas vu venir. » C'était clair, ça s'en venait, là.
Ouais. Mais la campagne a déjà bien commencé. On la voit au national, en tout cas. Les autobus sont partis, les avions, etc. On va dans une ville différente à chaque jour. Ici, dans la région, effectivement, ça a commencé plus tranquillement. Moi, la semaine passée, je me souviens, j'allais sur le site de tous les partis pour voir quand ça allait tomber. Puis quand j'ai parlé au candidat libéral, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de paperasse à faire. T'sais, souvent, ça prend du temps avant d'afficher, ça prend un due diligence, je sais pas comment dire en français, là, vraiment regarder le CV au complet, voir s'il n'y a pas des petites failles.
Ça aurait pu être fait bien avant.
Oui, c'est vrai.
Bien avant.
C'est vrai. Là. Mais bon, selon moi, l'important, c'est que là, ils sont affichés presque, tous ou presque.
Pas le NPD. Comment l'expliquer?
Je ne sais pas.
C'est un grand parti national, le NPD, puis c'est clairement un candidat ici ou une candidate. Là.
Est-ce que c'est leur priorité, ici, au Québec, surtout dans la circonscription, ça peut être intimidant d'avoir
Louis
Plamondon en poste? Là.
On voit que c'est ça. Il y a beaucoup de candidats, même dans le comté voisin, j'ai regardé ce matin. Je pense que le libéral n'est pas encore affiché dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères.
Ouais.
Même chose pour, je pense, le NPD aussi. Il n'est pas affiché dans le comté voisin. Donc, c'est une bonne question que tu poses, honnêtement. Je n'ai pas la réponse de pourquoi ça n'a pas été fait d'avance, mais bon.
Les candidats en présence, est-ce qu'il y en a dans le comté des candidats là, suffisamment connus et appréciés pour ajouter aux voix que leur formation aurait de base récoltées? Comme on pense que Plamondon ajoute aux voix que sa formation de base récolte. Est-ce que c'est le cas de d'autres figures ici, là? M. Tousignan, M. Plourde, M. Lapierre.
Oui, on leur a parlé la semaine dernière. M. Plourde, on lui parle cette semaine.
Ça, c'est le candidat conservateur.
La semaine dernière, j'ai parlé à M. Tousignan pour une entrevue, une bonne entrevue de 30 minutes. Même chose pour M. Lapierre.
M. Tousignan, qui est quelqu'un d'ici...
Exactement, c'est des gens articulés.
Qui a été connu comme on peut, c'est un musicien, connu, un trompettiste du Feu MRC Blues Band.
Exact, c'est quelqu'un dont son père, Henri Tousignan, était député en Abitibi pour le Parti libéral, justement, du Canada.
Sous Pierre-Éliott Trudeau.
Pendant 5 ans. C'est quelqu'un qui connaît bien la politique, et je lui parlais, c'est quelqu'un de très articulé, qui connaît bien son parti, qui connaît bien les enjeux aussi de la région, parce qu'il habite à Saint-Ours. Il habite à Sainte-Victoire et il a une terre à Saint-Ours, donc il connaît le coin. Puis c'est ça, moi je pense que ça va être, intéressant au débat aussi.
Est-ce qu'il ajoute aux chances de son parti de triompher ici? Est-ce que c'est un nom qui...
Je pense que sa campagne va être importante. Oui. Est-ce que c'est un nom qui résonne? Je sais, Sylvain Guédois, avant de l'entrevue, tu nous confies que tu le connaissais un peu, peut-être d'une autre époque. Ouais. Pour les plus jeunes, peut-être pas. Mm-hmm. Mais déjà, je pense, avec ses prises de parole, dans le journal Les Deux-Rives, je trouve ça intéressant, sa volonté de... Il a émis la volonté de sortir la région de l'opposition. Tu sais, je trouve qu'il affiche déjà ses couleurs, en disant des phrases comme ça, en disant que ça fait déjà depuis 1984 qu'ici, dans la circonscription, on est dans l'opposition, puis peut-être qu'on devrait être du bon côté, entre guillemets.
Et continuons donc notre tour des candidats, puisqu'on a commencé. Michel Plourde, Parti conservateur du Canada, c'est un ancien maire de Danville ou Danville, je ne sais pas comment on doit le prononcer, là. C'est une municipalité qui n'est pas dans la circonscription de Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnombac. Mm-hmm. C'est par conséquent pas nécessairement quelqu'un de connu des électeurs d'ici.
Non,
mais quelqu'un qui a une expérience politique, là.
Exactement. C'est un militant conservateur depuis 27 ans. Donc, quelqu'un qui est né à Gentilly. Donc, Gentilly qui est dans le comté, dans le coin de Bécancour.
Oui, c'est vrai,
par exemple. C'est quelqu'un de natif d'ici. Donc, il connaît peut-être un peu plus le coin dans le coin de Nicolet-Bécancour, un peu peut-être moins Sorel-Tracy. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à dire aux électeurs de la région de la MRC Pierre de Sorel. Mm-hmm. On va savoir probablement au débat du 14 avril prochain au Cégep, là. Mais j'ai hâte de voir, lui, vraiment, sa plateforme conservatrice, comment il va l'amener aux résidents de Sorel-Tracy, quels enjeux il veut apporter sur la place publique. Ça, j'ai hâte de voir. Mais on parlait de quelqu'un d'articulé tantôt avec M. Tousignan, c'est la même chose avec M. Plourde. T'sais, c'est quelqu'un qui était maire, qui connaît la politique. Donc, ça aussi, ça va être intéressant dans la course.
Et tu as aussi observé de l'articulation chez Yannick Lapierre.
Ouais.
Lui est candidat du Parti Vert.
Ouais,
c'est quelqu'un qui est directeur général d'une association de personnes handicapées.
Régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec.
Exact. Précisément. Donc, le territoire s'étend jusqu'à Pierreville. Donc, il connaît un peu le comté pour y travailler. Quelqu'un de très articulé aussi. T'sais, on s'est assis pendant 30 minutes. On a jasé vraiment de son implication du Parti vert. Oui, il y a l'environnement, mais il y a plus que ça au Parti vert. Donc, c'est un peu ça qu'il est venu me dire. Puis, je trouvais ça intéressant, justement, qu'il soit très articulé. Je me suis dit, ça va faire. On va avoir un bon débat le 14 avril au Cégep parce qu'on a, en ce moment, là, 4 candidats qui connaissent leur plateforme, qui connaissent leur parti. Puis je pense qu'ils vont apprendre à connaître aussi les enjeux pour certains, mais qui vont être capables de donner...
Les enjeux, justement. Ouais. Enjeux électoraux. Bécancour, Nicolet Sorel, Alnombac, compte-t-il des enjeux distinctifs? Est-ce qu'il y a une ou des questions de l'urne propres à ici, à chez nous?
Bien, je peux commencer. Je t'en parlais tantôt, là, la première chose que je t'ai dit, c'est Trump, tu sais, le spectre des États-Unis. Moi, je pense que ça va être... La question de l'urne, ça va être ça au Canada.
Oui.
Maintenant, dans la région...
Et on
ne
fera pas différent ici.
Ben c'est ça. Dans la région, je pense que tous les enjeux vont être teintés par ça. Donc, tu sais, on n'a qu'à penser à une région très dépendante de l'acier. Rio Tinto, Ferretitan, ArcelorMittal, les forges de Sorel, il y a des fournisseurs et clients et de ces trois grosses entreprises-là. Donc, on a beaucoup d'emplois reliés à l'acier. C'est sûr que ça va être un des enjeux de la région. On n'aura pas le choix d'en parler. On a des incertitudes au niveau des tarifs. Ça se pose entrer en vigueur demain. Donc, comment on va réagir face à ça? On n'a pas le choix de parler de cet enjeu-là. Je pense que ça va être l'enjeu numéro un à Sorel-Tracy.
Aussi, on est une région très rurale. On a beaucoup d'incertitudes au niveau des agriculteurs également.
Pour la gestion de l'offre.
La gestion de l'offre, voilà. J'ai parlé avec Yann Bussière récemment. Président local de l'UPA qui me confiait que c'était important, hein, de, que, quel que soit le candidat, de continuer à mettre de l'avant la gestion de l'offre pour s'assurer là, de protéger nos agriculteurs d'ici. Puis on a beaucoup sur notre territoire. Ça, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être à l'écoute aussi là, de ce que les candidats ont à dire à ce niveau-là.
Bon, justement, débat des candidats le 14 avril, pas lundi prochain, l'autre. Est-ce qu'il pourrait s'agir dans le contexte de cette élection parce que s'annonçant cette élection plus serrée que d'autres que nous avons couvertes, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un moment charnière, le débat? Est-ce qu'il a plus d'importance cette fois-ci qu'il en a eu par le passé? Oui.
Ben, moi, je pense que oui, parce que je pense que les candidats, comme on peut le voir, sont peut-être pas tous connus dans notre région, donc c'est le moment crucial pour venir faire leur connaissance, savoir aussi où faire connaître leur plateforme, mais connaître aussi leur point de vue sur la région.
Ouais.
Moi, je pense que ça va être un moment très crucial là, pour le vote. Là.
Effectivement. On peut voir déjà des pancartes affichées, on voit les visages, mais on ne les a pas entendus s'exprimer. Donc, c'est l'occasion de le faire. Puis, effectivement, connaître leur point de vue, connaître à quel point ils sont articulés, à quel point ils connaissent leurs enjeux. Donc, oui, je pense que le débat, ça va être un moment charnière. C'est toujours un moment charnière dans chaque élection, peu importe qu'elle soit municipale, fédérale ou provinciale, mais d'autant plus quand on ne connaît pas les candidats.
Alors, qui a le plus à y gagner et qui a le plus à y perdre dans ce débat-là?
Bien, en tant que favori, c'est sûr que Louis Plamondon, il a le plus à y perdre, mais en même temps, ça va dépendre toujours de la façon dont il va amener les enjeux du bloc. Ça va toujours être le Québec d'abord qui va mettre de l'avant dans tous les enjeux. Donc, reste à voir justement comment les autres vont l'attaquer, entre guillemets, là, je mets bien le mot en parenthèse, là, mais comment ils vont le défier sur les enjeux. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, là, à quel point les conservateurs et les libéraux, surtout, d'habitude, au national, on les voit s'attaquer entre eux, les libéraux et les libéraux conservateurs, parce qu'ils sont nés à nez dans les sondages, mais là, j'ai hâte de voir la troisième, le bloc, à quel point il va être attaqué dans la région, dans le débat. C'est ça qui va être, je pense, qui va être intéressant.
Il faudra qu'il soit combatif, Plamondon, dans ce débat-là, ouais. Parce que...
Bien, pour l'avoir organisé...
Attaqué de toutes parts.
C'est ça, pour avoir organisé les questions, justement, les dernières éditions avec Laurent Cournoyer, ici, de CJSO. On avait fait en 2017 et en 2019, je crois, les deux derniers. Puis souvent, c'était des temps de parole dans les débats. C'était très... on respecte le temps de parole de l'un, on respecte le temps de parole de l'autre. Il n'y avait pas d'échange, de débat. Il y avait des échanges, mais pas des...
Mais très, très respectueux envers
M. Plamondon. Très respectueux, effectivement. J'ai hâte de voir comment la dynamique. Est-ce qu'on va se couper la parole? Est-ce qu'on va interagir? Est-ce qu'on va relancer des questions? Ça, j'ai hâte de voir la dynamique.
Alors, c'est le 14 avril au Cégep de Sorel-Tracy. On peut y assister physiquement, ouais. si on le désire. C'est 15 $ le billet en vente ici à CJSO ou en ligne sur le site web de la Chambre de commerce.
Exactement.
Sinon, c'est diffusé, évidemment, à notre antenne. Merci beaucoup, les gars. Merci Jean-Philippe. Merci, Alexandre.
Merci, Sylvain.
Et on y a des chances qu'on se revoie pendant la campagne. On verra bien. On va poursuivre, après la pause, l'analyse de la campagne dans Bécancourt, Nicolet, Sorel, Alnombac, avec quatre passionnés de politique aux allégeances diverses. François Beaune, Claude Carpentier, Patrick Gauthier et Sophie Pagé-Sabourin. À tout de suite.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Une délégation de la région de Sorel-Tracy prenait part les 25 et 26 mars au Symposium canadien sur la maintenance navale, un rendez-vous réunissant les décideurs de l'industrie maritime au pays. Dans un contexte où les flottes sont vieillissantes, la multiplication des sites d'entretien de navires, autant privés que publics, devient primordiale et Sorel-Tracy compte bien y contribuer. À elle seule, l'Association canadienne des traversiers prévoit des investissements d'au moins 6 milliards de dollars entre 2026 et 2030. Alors que la Garde côtière canadienne entend mieux planifier l'entretien et la réparation de ses bateaux par le biais d'une collaboration plus étroite avec les chantiers navals du pays. La région de Sorel-Tracy représente l'un des ports privés les plus importants en tonnage au pays, ce qui génère déjà de l'activité en maintenance navale. L'entretien des navires y représente un créneau extrêmement prometteur.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Mardi, dans Valérie l'après-midi, Michel Pagliaro sera des nôtres pour annoncer son spectacle au cabaret Les Années Folles à la fin du mois. Et même en vacances, Chloé Leclerc, un petit mot pour les auditeurs de CJSO.
Valérie l'après-midi, une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, les électeurs de Bécancour, Nicolas Sorel, Aldonbach, seront appelés le 28 avril à choisir leur représentant ou leur représentante à la Chambre des communes. Quels sont les enjeux locaux de cette élection? La question de l'urne est-elle différente d'ailleurs? L'actuel contexte géopolitique modifie-t-il considérablement ou pas beaucoup la donne dans la circonscription? C'est maintenant à quatre passionnés de politique qui en ont tous fait activement que je vais poser ces questions-là. François Beaune, député du Parti québécois dans Bertrand en 1989, réélu dans Marguerite-Duville en 1994 et 1998, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de mars 2002 à juin 2003. Et avant tout cela, et ça je l'avais oublié François, c'est Wikipédia qui me l'a rappelé, ça enrichira notre discussion, et avant cela, candidat néo-démocrate défait dans Laurier-Sainte-Marie aux élections fédérales de 1988. Bonjour, François Beaune.
Bonjour.
Claude Carpentier, candidat libéral fédéral dans Bécancour, Nicolas Sorel, en 2015. Tu y avais fait une excellente performance pour le PLC, 25% des voix. La meilleure performance des années pour lesquelles j'ai retrouvé les résultats, je suis monté jusqu'en 2008. Bonjour, bon. Claude.
Merci.
Bon, c'est correct. Ça te va comme présentation?
Ben, je vais essayer de faire l'honneur.
Patrick Gauthier, candidat de l'ADQ de Mario Dumont en 1998. Il n'y en a pas pour s'en souvenir de ça que des vieux comme toi, m'écrivait aimablement Patrick. Alors, je t'ai invité, Patrick, pour ta probable affection pour Pierre Poilievre. On verra si ça se concrétise.
Ça n'aurait pas dit un « nous » pour le vieux. Je pense que je nous avais inclus mutuellement, mais merci de l'invitation.
Très bien. Et finalement, parce que j'ai choisi de les présenter par ordre alphabétique, Sophie Pagé-Sabourin. Sophie a été candidate de Québec solidaire en 2018. Elle enseigne la politique au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour Sophie.
Merci de l'invitation.
Ça me fait plaisir. En t'invitant, j'ai pensé à tous ces solidaires qui se réfugient au fédéral sous la bannière néo-démocrate, ce qui a sûrement déjà été ton cas. Pas forcément cette fois-ci.
On est mélangé chez QS. Là. Il y a du monde au bloc, il y a du
ce
monde
ce n'est pas
au
moi qui l'ai dit.
Au NPD, on est partout.
Bon, alors, madame, messieurs, dites-moi d'abord... pour chacune et chacun là, avoir eu votre face sur le poteau, qu'est-ce qui, d'une campagne, est le plus exigeant? Puis je veux d'abord t'entendre, Claude, parce que tu es le seul des quatre à avoir mené campagne au fédéral, ici, dans Bécancour, Nicolas Sorel, Aldonbach. L'immensité du comté, ça constitue en soi un défi, non? Parle-nous donc
de ça. Effectivement, ça n'aide pas parce que les besoins à partir de Bécancour à venir jusqu'ici là, sont fort différents. On a des secteurs agricoles, on a des secteurs industriels. Chaque municipalité, on a plusieurs municipalités. Je pense que c'est 22 municipalités, deux réserves autochtones. Fait qu'il faut prendre en considération l'ensemble des besoins. Et c'est pas évident parce que des besoins d'une partie peuvent être là, considérés comme étant une contrainte pour l'autre secteur. Fait qu'il faut être capable de faire un compromis. C'est un peu comme si on proposait dans un quartier où il y a des personnes âgées d'installer des skateboards au lieu des clubs de pétanque. Fait que c'est ça qui est l'enjeu.
Et il faut accepter de faire du kilométrage.
Effectivement, parce que c'est un bon deux heures et quart pour se rendre à l'autre bout du territoire.
Les autres, qu'est-ce qui est le plus exigeant pour une candidate, pour un candidat d'une campagne électorale? François?
Il y a d'abord l'infrastructure de soutien, parce qu'il faut être appuyé par des militants. il faut être également appuyé par des donateurs, des gens qui vont contribuer à la campagne électorale.
C'est vrai, le financement de la campagne, financement. C'est le bout sans doute le plus ingrat, ça.
Oui, effectivement. Il y a également de se tailler une place dans les médias, mm-hmm. Ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui.
Surtout pour les plus petits partis, sans doute. Hein?
Pas juste pour les plus petits partis, je dirais pour les candidats locaux, quel que soit le parti, parce que de plus en plus, les projecteurs sont tournés essentiellement vers les chefs. Ça devient une question de débat de chefs. Et malheureusement, il y a plusieurs candidats d'envergure qui passent sur le tapis, qui sont délaissés, qui pourraient faire un travail souvent très utile pour leur circonscription.
Ou n'ont pas de chance parce que leur parti n'en a pas.
Et puis finalement, ouais. comme ça a été dit tout à l'heure, ceux qui représentent des circonscriptions immenses à l'extérieur des centres urbains ont un défi additionnel qui est la distance, mais également de composer avec des sous-régions qui ont parfois des intérêts fort divergents dans la même campagne. Mmh. Alors, je résumerais ça à ces 4-5 points-là, là, essentiellement.
Patrick Gauthier, qu'est-ce qui est le plus exigeant d'une campagne électorale pour un candidat? Toi, comment as-tu vécu ça pour l'ADQ?
Pour l'avoir vécu, là, comme étant le premier officiel de l'ADQ qui s'était présenté dans une campagne dans le comté, je voudrais, c'est de faire connaître, effectivement, quand on a le chapeau d'un tiers parti, je pense que c'est déjà un grand défi d'aller chercher une visibilité médiatique, de réussir à s'adresser aux électeurs autrement que d'aller en porte-à-porte. Et là, je regarde les gens qui se présentent au fédéral, le porte-à-porte est encore beaucoup plus grand qu'au provincial. Ce qui est dommage aujourd'hui...
Ça se fait beaucoup moins du porte-à-porte aujourd'hui.
Les réseaux sociaux font la job. Là.
Effectivement, on rejoint une génération par les réseaux sociaux. Mais c'est quand même difficile de réunir un peu, comme on disait tout à l'heure, les deux axes de notre comté. Le comté est très grand. Et d'arriver quand on a soit un culte de personnalité au niveau des chefs, ou ici dans le comté où tout le monde connaît énormément Louis, qui a une notoriété depuis plus de 40 ans, où est-ce que tout d'un coup, on n'a pas vraiment idée de nos candidats, plus qu'il faut, de ce qu'ils ont à dire, et faut se faire juste sur une image des chefs au fédéral, alors qu'on ne connaît rien des chefs, c'est juste le culte. C'est un peu dommage, parce que ça passe au-delà des idées.
Sophie Pagé-Sabourin, qu'est-ce que tu as trouvé le plus exigeant d'une campagne électorale?
Je vous dirais l'énergie puis la conciliation travail-famille. Donc, par exemple, on parle de Louis Plamondon, mais lui, il est rémunéré là, pour faire sa campagne électorale, tandis que les autres candidats ont à travailler temps plein, faire leur emploi habituel, puis le soir, la fin de semaine, de faire leur campagne électorale. Bon, là, pour l'instant, on a des candidats plutôt âgés, mais je pense que Yannick est un peu plus jeune, là, le Parti vert. Je ne sais pas s'il y a des enfants. Là, je ne le connais pas.
Manger, mais... ça veut dire quoi?
Avoir des enfants à partir de la maison.
Ah, OK.
Mettons. Quand on a des jeunes enfants à la maison qu'il faut faire souper...
Ben, moi, elle me trouvait vue en 2018 quand nous avons croisé. Oui, oui. Elle me l'avait dit d'ailleurs, puis j'avais dit, fais attention, parce que l'âgisme, c'est dans un comté où les électeurs sont âgés. C'est pas sûr que c'est payant électoralement.
Hein? Mais je dirais que, comme candidate, quand il faut que tu travailles temps plein, que tu gères les boîtes à lunch, les repas le soir, en plus de faire une campagne électorale, là, au niveau de l'énergie puis de la conciliation, ça commence à être demandant. C'est pas pour rien, justement, qu'on a peu de politiciens, justement. Là, il y en a de plus en plus, hein, d'ailleurs, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, mais ça demande une énergie puis une volonté supplémentaire.
D'accord. Les candidatures ont, outre celle de M. Plamondon, tardé à être annoncées. Celle du NPD n'est même pas encore connue. Ça vous dit quoi? Est-ce que ça dit quelque chose sur le degré de préparation des partis en vue d'élections pourtant très prévisibles?
Bien, ça dit quelque chose sur l'intérêt que portent les partis à notre région, parce que les élections, on le sait depuis un bout de temps que ça s'en vient. Les partis qui n'ont pas présenté encore de candidats ou ceux qui viennent de les présenter à la dernière minute sont un peu coupables d'avoir délaissé la région. Enfin, moi, je décode ça comme... une sorte de message à la population que jusqu'à un certain point, peut-être qu'ils prennent la victoire de Louis Plamondon comme acquise.
Qu'en pensent les autres, Patrick Gauthier?
Juste dire, c'est un exemple parfait de la difficulté à faire passer l'information. Parce que je me suis amusé, la journée où l'élection a été déclenchée, que M. Carney est allé chez le gouverneur général, je suis allé sur chaque site de parti politique. Or, il y avait déjà quelqu'un, Michel Plourde était déjà là avec sa page Facebook et avec son image sur le site du parti. Sa candidature n'était pas déposée, mais je vous confirme que son nom était déjà là. Est-ce qu'il avait débuté sa campagne? Est-ce qu'il était officiellement candidat? Non, il n'avait pas déposé, mais son nom était déjà présent. Non,
c'est pas ce que j'ai vu, moi. En tout cas, je ne sais pas. Je crois sur parole.
J'ai été sur Élection Canada justement ce matin. Il y a juste le Bloc québécois puis le Parti conservateur que les candidatures sont bel et bien déposées et officielles.
Effectivement.
Puis, ça te dit quoi, toi, Sophie, ça?
Mais ça fait au moins 6 mois là, qu'on sait qu'il va y avoir des élections au printemps. Là, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue d'en face là, qui dit que c'est un manque d'intérêt des partis envers notre circonscription. Là.
Sauf que le Bloc ont juste le Québec à s'occuper, contrairement aux autres partis qui ont le devoir de le faire dans l'ensemble du Canada.
Mais le Bloc a une machine.
Ce que ça me dit, moi, c'est que les gens n'ont plus d'intérêt de se présenter au niveau politique, surtout avec les médias sociaux. Je me suis présenté en 2015, puis j'ai encore des messages haineux aujourd'hui en 2025. Puis par rapport à il y a une trentaine d'années, combien est-ce qu'il y a de politiciens qui démissionnent en cours de route comparativement à il y a 30 ans?
Pour des causes semblables.
Beaucoup de femmes, municipal.
Au municipal, au niveau provincial.
Plus on est proche de l'électeur.
Oui, c'est ça. Puis en fait, là, c'est un job. Il faut être conscient que c'est 7-7. C'est pour ça que tu disais tantôt que concilier travail-famille, c'est du travail 7-7 puis 365 jours par année. Puis on voit sur les médias sociaux que les gens disent que les politiciens sont super bien traités. Puis pour être politicien à la satisfaction des gens aujourd'hui, il faudrait peut-être les nourrir avec des sandwichs puis qu'ils fassent le travail de façon bénévole.
Est-ce qu'il y a dans le comté, je vais parler un peu des candidats en présence, là, est-ce qu'il y a dans le comté des candidats suffisamment connus et appréciés pour ajouter aux voix que leur formation aurait de base récoltée?
Oui, certainement. Louis Plamondon, oui, c'est le meilleur. Oui, mais pas nécessairement pour la notoriété, le nombre d'années, le record Guinness d'avoir siégé à la Chambre des communes, mais parce que les défis qui s'annoncent devant nous et les préoccupations des gens, oui, la question des élucubrations de Donald Trump, mais pourquoi? Parce que les gens craignent pour leur emploi, les gens craignent pour les conséquences économiques. Or, notre région se trouve dans un corridor qui va être sérieusement affecté par les tarifs de Trump. Dans un contexte comme celui-là, ce qui devient important pour le citoyen ordinaire, c'est de pouvoir compter sur un député qui a les contacts, qui a l'expérience pour pouvoir les relocaliser, les aider à faire la transition. Moi, je l'ai vécu comme député. J'ai été député pendant 14 ans. Je l'ai vécu, et on en discutait tout à l'heure, lorsque un grand nombre d'industries polluantes de Varennes ont fermé. Un des grands défis, c'était de relocaliser, de reloger ce qu'on appelait les travailleurs âgés, âgés étant définis comme ça partait à partir de 45 ans. Et c'est ce qui nous attend ici. Louis Plamondon possède les contacts, les entrées, connaît les mécanismes. Et ça, c'est une valeur ajoutée.
Je vais me tourner. D'accord, je me tourne vers les autres. Claude, qu'en penses-tu?
C'est important et tu as parlé de pouvoir. Et c'est ce que Louis Plamondon n'a pas. Parce qu'avec un problème qui a un caractère ou un phénomène mondial, c'est pas un député régional qui va faire en sorte qu'on va changer la donne.
Et l'exemple, on l'a eu.
L'ensemble d'un parti.
On l'a eu avec M. Blanchette dernièrement dans les médias, qui dénonçait M. Carney de ne pas avoir de ministre plus loin que Shawinigan. Or, la réalité est que même si on avait voté Bloc, il n'y en aurait pas eu plus. Et c'est la même chose quand on dit qu'on veut ramener l'important débat à savoir si on devrait augmenter les pensions de 10 % ou pas pour les gens de 65 ans et plus. M. Blanchette nous a même dit qu'il a essayé de le faire dans un gouvernement minoritaire, alors que le Bloc avait un pouvoir et a reconnu en fin de semaine que ça n'a pas fonctionné, il faut recommencer.
Le pouvoir de quoi?
Ben, c'est ça.
Non, ils l'ont pas. C'est pas une question.
On ne peut pas changer de choses dans l'opposition.
C'est ça. Mais le bloc en partant, le bloc n'a pas.
Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? On ne peut pas changer les choses dans l'opposition?
Non, on peut amener des idées sur la table, mais la décision ne sera jamais prise par l'opposition.
Okay. C'est ça.
C'est défaitiste, là, c'est triste.
Si Louis Plamondon se présentait contre le bloc, il gagnerait. Fait que c'est peu dire. En fait, le bloc, c'est Louis Plamondon. S'il se présentait contre le bloc, il gagnerait son élection.
Bon, savez-vous quoi? Je m'excuse. Non,
mais simplement
oui, pour ajouter. C'est parce qu'on a un bloc publicitaire, François. On va revenir tout de suite après le bloc publicitaire.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
CJSO vous invite à vous procurer des billets pour assister au débat des candidats à l'élection fédérale dans Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnopac qui aura lieu le lundi 14 avril de 19h à 21h à l'auditorium du Cégep de Sorel-Tracy. Les billets sont en vente à CJSO et en ligne sur ccist.ca.
Auditeur de CJSO, votre mission est commencée. Votre objectif, remporter 101,07 en argent. C'est le printemps payant de CJSO. Vos instructions, du lundi au vendredi, écoutez l'émission Yatsé Matin, vers 8h05. Alex Trudel nommera au hasard une adresse de la région de Sorel-Tracy. Si vous y habitez, vous aurez 24 heures top chrono pour vous présenter à la station. Avec une preuve de résidence, réclamez votre gain et dire « Mission accomplie ». Une présentation de CJSO 101,7 et de ses partenaires.
L'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton et piscine spa Jannick Terrien et fils. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101,7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, je poursuis la discussion avec François Beaune, Claude Carpentier, Patrick Gauthier et Sophie Pagé-Sabourin sur l'élection dans Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnobac. L'actuel contexte géopolitique avec M. Trump là, pour président des États-Unis, ses tarifs puis son imprévisibilité... L'actuel contexte géopolitique, est-ce qu'il modifie considérablement ou peu la donne dans la circonscription? Qu'en pensez-vous, Sophie?
Je commencerai. Moi, je travaille au Cégep, là. Oui. On l'a dit tantôt.
J'enseigne la politique.
Oui, j'enseigne la politique. Et on a déjà vu les répercussions. En fait, on avait plusieurs stagiaires du Cégep de Sorel-Tracy qui étaient placés dans les industries. Et Rio Tinto a décidé de ne pas prendre de stagiaires cette année. Il n'y a presque pas d'employés cet été. Par peur des tarifs douaniers. Donc, ça a déjà des répercussions là, dans la circonscription, même si les tarifs, pour l'instant, là, c'est pas clair, là, c'est confus, qu'est-ce qui arrive.
Mm-hmm. Donc, mais électoralement, est-ce que ça change la donne, ça?
Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur pour leurs emplois à cause de toutes les aciéries dans la région. Mais moi, je suis pas sûre que dans la vie de tous les jours, là, moi, je pense que c'est le coût de la vie qui fait une différence. Quand je pense à mes étudiants, là, ils regardent leur parcours à l'université, ils disent « Hey, les apparts, ça coûte donc bien cher. Les transports, ça coûte cher. M'acheter une auto, même usagée, ça coûte cher. Mon épicerie, ça finit plus. » Moi, je pense que c'est le coût de la vie
qui fait
mal.
Mais on a de la difficulté à imposer ces enjeux-là, tu trouves pas, à cette élection?
Oui, parce que là, on parle juste de Trump. Mais moi, là, personnellement, comme professeur, là, dans la vie de tous les jours, là, c'est sûr que là, je suis prof de sciences politiques, ça a un impact, mais je serais prof de mathématiques, là, ça n'aurait pas d'impact dans ma vie de tous les jours, là, Trump. Mais le coût de la vie... Ça a un impact
Patrick,
à tous les jours.
J'allais dire, c'est qu'au-delà de la question des tarifs de Trump, j'ai aussi de la difficulté avec l'ingérence de Trump au travers de la campagne, qui va favoriser un chef, favoriser un autre chef. J'ai parlé avec un, j'ai parlé avec l'autre. Alors, concrètement, est-ce que ça changera quelque chose d'avoir une conversation constructive avec M. Carney? On va tout le savoir demain en même temps. Alors, revenons à la base. Le résultat, l'impact de M. Trump amène un débat de chef. Et malheureusement, n'amène pas dans la région. Or, ici, on a le côté très acéré du côté Sorel-Tracy. On a le côté vers les nouvelles technologies, vers les batteries, vers le silicium, vers les nouvelles énergies du côté de Gentilly. Or, dans les deux cas, il y a une discussion à avoir sur l'avenir du développement économique de ces deux pôles-là.
Mais il y a des gens...
Se faire selon ce qui va se passer avec...
Mais il y a des gens, et sans doute n'en es-tu pas très heureux, François Beaune, il y a des gens qui vont, derrière l'isoloir, voter pour le parti dont le chef ferait le meilleur interlocuteur à Trump, non? Absolument. Et qui vont oublier Plamondon, qui vont oublier... Tu ne penses pas que ça existera, ça, de façon importante?
Oui, mais il y a une autre dimension qu'on n'a pas abordée ici, là, qui est également rattachée à la question économique. C'est toute la question de la spécificité québécoise, de la langue française et de la protection de notre langue et de notre culture. Quand vous avez celui que certains médias nous présentent comme le meilleur interlocuteur de Trump, pour ne pas le nommer Carney, qui répète de plus en plus qu'il va contester les lois identitaires du Québec, la loi sur la laïcité, la loi sur la loi 96 sur le français. On doit quand même se poser la question, c'est bien beau parler d'économie en termes généraux, mais nous, dans la région, une région de patriotes, une région francophone à 90%, il faut qu'on se pose la question, nos emplois, est-ce qu'on va être obligé de travailler en anglais? Est-ce que les règles qu'on va nous imposer, j'écoutais juste avant d'entrer ici, Trump a fait des déclarations sur la loi 96, c'est quelque chose d'important, ça.
Moi, ingérence.
Alors, celui qui va négocier au nom du Canada doit négocier également au nom du Québec.
On va laisser Claude défendre Carney un peu, là.
Défendre Carney. Je l'ai écouté ce matin, puis c'est pas ce qu'il a dit, là, qui irait contester. Il y a juste un volet qui le fatigue au niveau de la loi. Sauf que
c'est la clause non-obstant préventivement.
Effectivement. Ça, ouais. Sauf que dans le contexte actuel, on fait affaire avec un phénomène mondial qui a changé les besoins ou les orientations de l'ensemble des partis politiques. Oui, il faut trouver la personne qui va être capable de faire face à Trump, que M. Carney connaît déjà. Sauf que si tout le monde est d'accord que dire que la question de l'urne ou la priorité numéro un, c'est de faire face à Donald Trump, que celui qui va y faire face s'adresse à lui en japonais, en espagnol ou en latin, je n'en ai absolument rien à foutre, c'est qu'il faut régler le problème une fois pour toutes.
Mais ce ne sera pas un combat de coq, là. Quand on va aller parler avec M. Trump, là, on a beau dire M. Carney va lui tenir tête. Je m'excuse, mais c'est encore le Parti libéral qui va être là. C'est encore Mélanie Joly, c'est encore M. Leblanc, c'est encore la même équipe qui était là sous Justin Trudeau. Puis selon les derniers résultats, je ne suis pas sûr que ça a été gagnant. Là.
Mais sauf que ça ne durera pas longtemps, parce que les États-Unis, l'ensemble des disons 50% des produits consommés aux États-Unis proviennent de l'extérieur, de la Chine, de l'Europe. Ils proviennent d'ici du Canada, ces produits-là sont à la bourse. Et 40% des produits qui sont à la bourse, ben c'est nous autres qui les fournis. Fait que ça ne pourra pas durer longtemps, là. Ça va avoir un impact énorme sur
plus que celui de M. Carney?
Ah ouais, ben regarde, probablement que oui.
Québec 125, qui parle des sondages qui sont publiés pour établir ses prédictions de sièges, n'en donnait, quand j'ai regardé hier, qu'un seul solide, au Bloc québécois, celui d'ici, celui de Louis Plamondon. Il y a des comtés enclins là, à voter Bloc, des comtés où l'élection d'un bloquiste est probable, mais qu'un seul, selon Québec 125, où l'élection d'un candidat du Bloc est solide. Ça risque, sous cet éclairage-là, d'être intéressant à suivre le 28 avril, y compris dans le comté où la victoire de M. Plamondon est à chaque fois, sauf peut-être en 2011, apparue assurée. Ça semble vouloir être plus serré cette fois-ci, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça va faire?
Bien, écoutez,
Sophie, j'ai senti que...
moi, je lève la main, je suis comme à l'école, je lève encore la main. Oui, moi, je pense que Louis Plamondon va être élu avec facilité encore une fois ici, mais je pense que les intentions de vote du Bloc vont changer au fur et à mesure des sondages. Par exemple, si le 16 avril, au débat des chefs, Mark Carney fait bien en français, là, parce que présentement, on voit ça un peu comme son talon d'Achille, là, le français, par exemple, qui nous surprendrait. Et là, les intentions de vote des libéraux là, augmenteraient et ça donnerait là, un gouvernement majoritaire libéral. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, là, vont retourner au Bloc, là, ou au NPD, ou au Parti vert. Il y a beaucoup de gens qui, présentement, pensent voter libéral tout simplement pour être votés contre Poilievre, mais que le Parti libéral, c'est pas leur premier choix. Fait, je pense qu'il faut regarder encore les sondages puis attendre là, les débats du 16 et 17 avril.
D'accord, les autres? Sur les résultats dans Bécancour, Nicolas Sorel, Lombac, le 28 avril, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que Louis parle avec une longueur d'avance. Puis de refuser de le reconnaître, c'est de commencer à perdre.
Oui.
Je veux dire, à quelque part, il faut être conscient de qui sont nos adversaires si on veut réussir un jour à bâtir quelque chose.
Oui, définitivement.
J'aimerais revenir simplement sur un concept intéressant qui a été soulevé sur le concept de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas simplement d'avoir le plus grand nombre de députés à la Chambre des communes. Il y a un autre élément que joue le Bloc, que pourraient jouer d'autres partis, mais que joue particulièrement le Bloc en fonction des intérêts particuliers du Québec. C'est un rôle de lanceur d'alerte. De dénoncer certaines politiques qui font boule de neige dans les médias et qui attirent l'attention du public sur des dossiers, sur des questions litigieuses qui, autrement, ne seraient même pas discutées. Alors, il y a ce rôle-là de lanceur d'alerte que le Bloc peut jouer.
Mais est-ce que c'est le rôle d'un parti politique seulement ou ça devrait être le rôle d'un député en partant d'aller se battre et de lancer l'alerte quand il y a un problème?
De tous les acteurs politiques.
Et voilà, il ne faut, pas le restreindre au Bloc ou il ne faut pas le restreindre au NPD.
Non, mais
je pense que c'est le rôle du député.
Oui, c'est le rôle. Effectivement, c'est très, très intéressant comme démarche.
Mais on en entend parler au Québec, mais si dans les autres provinces, par exemple, on va parler autant de la gestion de l'offre, par exemple, qu'on entend beaucoup parler avec le Bloc ici au Québec, mais je ne suis pas sûre qu'en Alberta, ils en entendent parler autant qu'ici. La même chose en Colombie-Britannique ou Yukon. Là.
Effectivement.
Et je ne suis pas sûr que si l'ensemble du Québec vote Bloc, ça va nécessairement séduire M. Carney ou M. Poilievre, parce qu'on sait que ce sera un ou l'autre qui sera élu. Je ne suis pas sûr que la gestion de l'offre du Québec, avec plein de bloquistes, va faire un changement sur les négociations
au niveau des tarifs.
Les candidats dans Bécancour, Nicolas Sorel, à Lombac, vont croiser le fer le 14 avril au Cégep, dans le cadre d'un débat organisé par CJSO et Les Deux Rives, qui sera diffusé à cette antenne.
On y sera.
Est-ce que c'est un rendez-vous important au sens de susceptible de faire bouger l'aiguille? Est-ce que le débat est plus important cette fois-ci qu'il ne l'a jamais été dans le comté, au fédéral? Qu'en pensez-vous?
Je ne penserais pas.
Non, Sophie?
Non, même que j'hésite à aller voir... je vais tout le temps à tous les débats là, des candidats locaux, et cette année, j'hésite.
Mais là, je voulais t'avoir le lendemain là, avec
mais
ces
oui,
messieurs.
Mais là, je vais peut-être y aller, là, parce que c'est un peu ma job dans la vie. Là, mais...
Il ne te tente pas tant, ce débat, non?
Non, parce que Louis Plamondon part avec une trop grande longueur d'avance. Ça fait 40 ans qu'il est à la Chambre des communes. C'est un match déséquilibré en termes de
force. Pas en termes de débat, par exemple. Je suis pas d'accord. Il part avec une longueur d'avance parce que Louis est connu. Il fait partie de l'histoire régionale.
Oui, mais il a de l'expérience. Il connaît les dossiers.
Oui, il connaît les dossiers. Puis sauf qu'il y a un début. Toi, en tant que professeur, tu découragerais-tu quelqu'un de se lancer en politique contre Louis Plamondon?
Non, jamais. Moi, j'encourage tout le temps la participation politique.
Bon, pourquoi crois-tu que Louis Plamondon a un avance sur les autres candidats au niveau du débat?
Parce que juste par son expérience, tout simplement, par ses connexions, ses contacts qu'on a parlé, il connaît tous ses dossiers, il connaît les acteurs, etc. Un candidat, là, je l'ai été candidate, t'as beau te préparer à ton débat, regarder les dossiers, etc., t'es jamais aussi prête que quelqu'un qui ça fait 40 ans qui travaille avec différents acteurs. Là.
Si t'as un bon dossier, puis si t'as des bonnes idées qui peuvent aller à l'encontre, pas nécessairement à l'encontre des siennes, mais qui peuvent bonifier ce que lui va dire, tu peux...
François et Patrick, vous avez chacun 30 secondes. Bon, sur le débat, là.
François?
Moi, je pense que le débat est important parce qu'on peut également juger les partis politiques à travers ce que disent leurs candidats dans la circonscription locale. Ça influence. On a beau avoir une conception ou un choix d'avance pour un parti, si le candidat local est imbuvable
ça peut rebuter l'électeur.
Ça peut influencer
Et ça peut aussi permettre, justement, comme on disait au tout début, là, je pense qu'on fait le cercle complet, c'est un véhicule promotionnel pour les candidats pour la chance de se faire connaître par les électeurs. La station est diffusée à la grandeur du comté, donc on vient de donner un outil qui va être accessible à tous. tous les candidats de faire valoir leurs points, de faire valoir leur motivation. Et ne serait-ce que pour ça, oui, le débat va être
passé. Je vous remercie tous les quatre. Puis là, je vais faire quelque chose de pas gentil. Je vais vous mettre la pression. Mesdames, messieurs, si vous les avez aimés, François Beaune, Claude Carpentier, Patrick Gauthier et... voyons, Sophie Pagé-Sabourin, sachez que je les ai tous les quatre conviés à me rejoindre le lendemain midi du débat pour un débat sur le débat. Mais ça, je trouve que ce serait vraiment très intéressant. Merci, merci à vous quatre. Merci à Alexandre Brouillard et Jean-Philippe Morin des Deux-Rives. Et à la semaine prochaine pour une autre tribune.